Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de philosophie, d'enseignement de la philosophie en contexte islamique particulièrement. Et avec grand plaisir, ce sera avec Souleymane Bachir Diagne. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour cher Souleymane Bachir Diagne. C'est vraiment une grande joie pour nous tous, pour moi-même. Et je suis sûr que nos auditeurs seront ravis de cet entretien ouvert, libre avec vous. Vous qui êtes l'un des, si ce n'est le plus grand philosophe musulman encore vivant, et longue vie à vous. Et cette discussion que j'ai plaisir à mener avec vous portera sur l'enseignement aussi des sciences humaines d'une manière générale, mais tout particulièrement de la philosophie actuellement dans le monde dit musulman. Mais qu'est-ce, selon vous, première question, philosopher d'une manière générale et particulièrement en ce moment?
On peut dire que c'est être un questionneur. Vous savez, celui que l'on peut considérer comme un peu l'ancêtre des philosophes, la grande référence philosophique, Socrate, on le surnommait Socrate la torpille. Il était toujours prêt à remettre en question nos certitudes les plus affirmées, à demander de fonder les énoncés que nous produisons, d'essayer de tester leur validité, de s'interroger sur les raisons que nous avons de tenir pour vrai ce que nous tenons pour vrai, ce que nous croyons, ce à quoi nous adhérons. Donc, disons que c'est là la démarche de la philosophie qui consiste à chercher la certitude en questionnant ce que nous tenons pour certain. Maintenant, philosopher en islam ou dans une religion quelconque, ça peut apparaître comme un problème puisque l'idée que nous nous faisons de la religion, c'est précisément qu'elle repose sur des dogmes qu'il ne faut pas questionner. Encore une fois, c'est une idée que beaucoup se font de la religion et donc on peut avoir le sentiment que la religion n'a rien à faire dans un domaine où les croyances sont posées et établies de telle sorte qu'on estime qu'elles n'ont pas à être remises en question de quelque manière que ce soit.
Alors, vous avez dit qu'on cherche la certitude ou les certitudes tout en les questionnant. J'ai pensé tout de suite à cette phrase « Seules les certitudes rendent fous ». Donc, c'est le fait de les questionner que ça nous prémunit de la folie.
Mais voilà, ça nous prémunit de la folie, en effet, parce que on se dit, ces certitudes-là, au fond, sur quoi reposent-elles? Pourquoi sont-elles des certitudes? Et là, on s'engage dans une voie qui nous permet au moins de mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles nous les tenons pour des certitudes.
Et dans les contextes religieux, surtout quand cela relève de la foi, j'ai toujours entendu dire que la foi relève de la conscience émotive, mais un philosophe interroge les présupposés de la foi, il ne les tient pas pour acquis non plus.
Oui, ben voilà, de ce point de vue-là, il fait son métier. Il ne remet pas en question la foi, il interroge sa raison d'être, il interroge sa nature, de quelle nature est cette foi, quel en est le contenu et quelle est la solidité de cette foi. C'est la raison pour laquelle le questionnement philosophique est une véritable épreuve pour la foi, de même que, au fond, la foi elle-même aussi est une épreuve pour la philosophie. Se mettre à l'épreuve, cela est toujours utile. Parce que même si on ne vient pas avec des réponses sûres, établies, absolues, on a au moins le sentiment d'avoir établi pourquoi il en est ainsi.
Pourtant, étymologiquement, la foi relève aussi de la fidélité, de la confiance, de la sûreté ou sécurité, même dans une autre acception. Mais la foi est toujours en quête d'intelligence. Si je devais redire la parole d'Anselme de Canterbury, Fide esquare ens intellectum, la foi est toujours en quête d'intelligence. C'est ça, une foi éclairée, éclairante et qui apaise. Ce n'est pas une foi qui verse dans le fanatisme.
Ce n'est pas une foi qui verse dans le fanatisme, parce que c'est une voie, en effet, qui s'ouvre à l'épreuve de l'intelligence, qui ne s'estime pas menacée par l'intelligence, au contraire, qui continue à être confiance, puisque vous avez rappelé que la confiance est une des significations du mot fides, qui a donné la foi. Eh bien, cette manière d'accepter de s'ouvrir à l'épreuve de l'intelligence et aussi à la lumière qu'apporte l'intelligence est véritablement le chemin d'une consolidation de la foi et non pas d'un ébranlement nécessaire de la foi. Avoir le sentiment que toute la part d'émotion qui joue un rôle important dans l'adhésion que nous avons à une religion, par exemple, qui peut définir la foi, et même la confiance que nous pouvons avoir dans des contenus qui ne sont pas prouvables par les moyens ordinaires de la raison, etc. Mais mettre tout cela à l'épreuve de l'intelligence, c'est dans le meilleur des cas, aboutir à une consolidation de la foi et non pas en son ébranlement.
Professeur Souleyman Bachir Diagne, on vient à la philosophie par deux canaux différents, en tout cas complémentaires, disent certains, soit la voie expérimentale, après avoir médité sur les splendeurs de la création et les méandres de l'univers, et même la réflexion mathématique, ou par la spéculation métaphysique. Vous, c'est plutôt le premier canal.
Oui, alors déjà, il faut bien se rendre compte que dans la vie réelle, on est d'une certaine façon et on grandit dans cette foi-là. Pour la plupart d'entre ceux qui sont nés dans une religion, qui grandissent dans une religion, mais ce moment que vous venez de décrire est effectivement un moment qui devrait arriver. On ne peut pas simplement vivre de manière inconsciente sa propre foi, être né là-dedans, ne s'être jamais questionné et au contraire vivre dans une certitude, dans des certitudes qui n'en sont pas véritablement parce qu'on ne les a jamais testées précisément comme certitudes. Alors, la religion demande, à un moment donné, cet examen, demande de se mettre dans la situation de dire « Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois ?» Et de ce point de vue, nous pouvons citer cet auteur immense du monde de l'islam qui est l'imam Ghazali, l'Al-Ghazal des latins, qui a eu cette parole qui ne doute pas, n'examine pas, et qui n'examine pas, ne croit pas. Et donc, il faut se mettre dans cette situation philosophique radicale, qui a été aussi la situation de Descartes, qui consiste à s'interroger à un moment donné sur les raisons que l'on a de tenir pour vrai ce que jusqu'ici on a tenu pour vrai. Et donc, il y a cette voie que vous venez de décrire, qui est cette voie spéculative, où on s'interroge sur les critères du vrai. Est-ce que ce que je tiens pour vrai obéit à ces critères ou pas? Ça, c'est la voie spéculative. Et dans cette voie spéculative, il est bon également de comprendre que ce à quoi on y adhère à la fois par son intelligence et par son émotion, par son cœur. Si je veux, par exemple, faire la distinction entre ce qui serait du domaine purement intellectuel, spéculatif, et le domaine qui serait celui du cœur, une adhésion de tout son être, si vous voulez, une adhésion spirituelle. Et réconcilier les deux est la tâche. La grande tâche, c'est celle-là. Ne pas les opposer, ne pas avoir le sentiment que le rationalisme, c'est-à-dire la confiance que l'on peut faire à la raison, s'oppose à une adhésion spirituelle peut-être plus immédiate.
Alors, Souleyman Bachir Diagne, dans cet entretien finalement libre, je ne résiste pas à l'idée de vous poser la question à propos d'Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, 1058-1111, donc un homme mort au tournant du XIIe siècle, dont certains disent que c'est l'un des plus grands théologiens de l'islam, surtout quand il était titulaire de la chaire Nidamiya, la madrasa de Bagdad, l'université qui n'a pas survécu à l'invasion des Mongols. Et d'autres disent, ah mais quand même, il était le fossoyeur de la philosophie. Mais en réalité, pour être honnête, il disait la réfutation ou l'effondrement ou la contestation ou la destruction des philosophes, pas de la philosophie. Donc quel est votre sentiment à propos de l'Al-Ghazal des Latins, d'Al-Ghazali?
Alors c'est un personnage absolument extraordinaire. Et à la réflexion, et c'est cela ma perception de ce qu'il représente, c'est un philosophe profondément et qui a écrit, en effet, contre les philosophes, plus que contre la philosophie.
C'est ça.
Et c'est vrai, il a écrit un livre qui s'appelle « La réfutation des philosophes », où, en théologien, du point de vue de la religion, il semble s'opposer à un certain nombre de thèses qu'il attribue aux philosophes et dont il estime qu'elles sont une remise en question dangereuse de la foi. Donc il accuse les philosophes d'affirmer par exemple l'éternité du monde contre l'idée que ce monde a été créé un moment donné. Il accuse les philosophes de ne pas croire que Dieu a simplement une sorte de connaissance générale des choses du monde sans s'occuper des particuliers. Et puis il les accuse aussi de ne pas croire en la résurrection des corps. Et voilà les trois grandes raisons. Il en cite une vingtaine, mais il estime que ce sont les trois les plus importantes qu'il faut reprocher aux philosophes. Donc ça, c'est dans un livre qui est clairement dirigé contre les philosophes et contre ce qu'il estimait être les thèses de ces philosophes. Mais quand on regarde le reste de son œuvre, on se rend compte que lui-même produit en réalité les thèses qu'il accuse les philosophes de tenir. Non seulement il y a ce fait qui nous fait revenir sur le jugement un peu hâtif qui consiste à considérer que c'est un théologien qui, du point de vue de la théologie, s'est attaqué à la philosophie, mais deuxièmement, sa démarche elle-même et la démarche philosophique par excellence. Voici quelqu'un qui était adulé presque sur le plan intellectuel lorsqu'il était professeur à cette Nizamiya de Bagdad, poste prestigieux, et qui à un moment donné se dit « mais tout le monde vient écouter ma parole en ayant l'impression que c'est une parole de vérité. Mais est-ce que je suis sûr que cette parole que je tiens est une parole de vérité ? Et si j'en suis sûr, d'où me vient cette certitude ?» et qui met en question non seulement ce qu'il tenait pour vrai, mais qui se remet lui-même en question et qui va à la recherche des raisons qu'il aurait, qui seraient les raisons qui fondent les énoncés qu'il prononce et qu'il propose, les décisions juridiques par exemple, ou les opinions éclairées qu'il propose à ceux qui viennent l'écouter en chair, donner son enseignement à la Nizamiya de Bagdad. Voilà l'attitude philosophique par excellence. Ce moment où on se retourne sur ce que l'on a tenu pour vrai, pour s'interroger sur les fondements de cette vérité. Et c'est la démarche qu'il va mener, en se disant, dans une démarche d'une honnêteté intellectuelle absolument extraordinaire, je ne peux pas faire confiance au témoignage de mes sens. Je sais que mes sens me trompent si souvent. Je ne suis même pas sûr de pouvoir faire confiance à ce que ma raison me dicte comme étant la vérité. Et alors, dit-il, il me faut bien avoir une certitude qui me vienne d'une source qui serait la source de toutes les certitudes. Et cette source, estime-t-il, c'est la raison, c'est la lumière d'une faculté qui serait encore au-dessus de la faculté de raison. Et c'est la certitude que cette faculté peut atteindre qui, en quelque sorte, irradie ensuite pour éclairer la certitude de la raison et peut-être même la certitude du témoignage des sens. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est la représentation même du philosophe dans cette démarche-là. Et c'est la raison pour laquelle je dis de lui qu'il est un philosophe qui a écrit contre les philosophes, contre ce qu'il estimait être le danger de thèses qui circuleraient dans la communauté musulmane sans que l'on sache véritablement ce qui était au fondement de ces thèses-là, tout en illustrant par certains de ses écrits et par sa démarche intellectuelle propre ce que doit être la vraie philosophie.
Et donc, il construit tout son échafaudage et son architecture intellectuelle sur cette lumière qui, dans son livre « Errance et délivrance » ou « Celui qui délivre de l'égarement », en arabe, il dit « لَقَدْ قَدَفَ اللَّهُ فِي قَلْبِي نُورًا أَدْرَكْتُ مِنْ خِلَالِهِ » Dieu a projeté dans mon cœur, dans ma poitrine, une lumière qui m'a fait réaliser que... Bon, ceci a donné lieu à d'autres réponses, puisque nous nous délectons avec vous, Souleymane Bachir Diagne, de la réponse notamment celle de Averroès, quelques temps plus tard, dans La réfutation de la réfutation.
Absolument, et donc quelques temps plus tard, Ibn Rushd de l'Averroès des Latins écrit en réponse à Al-Ghazali pour expliquer ce que sont ces thèses reprochées aux philosophes. Alors, ce qui est intéressant, c'est deux choses. Premièrement, l'argumentation que développe Ibn Rushd, Averroès, en réponse à l'argumentation elle-même philosophique, au fond, d'Al-Ghazali. Ils sont sur le même terrain. Et le deuxième aspect qui est important aussi et que Averroès prend bien soin de préciser, il le reprécise d'ailleurs dans un autre petit ouvrage, cette fois-ci, le Fasl al-Maqal, le traité décisif sur l'accord de la religion.
Qui est une fatwa.
Qui est une fatwa, oui. Sur l'accord de la religion et de la philosophie, où il se prononce en disant « il n'y a pas des accords, au contraire, il y a harmonie entre la philosophie et la religion ». Il dit « Abu Hamid », comme il l'appelle, donc c'était le prénom de Ghazali, « est au fond d'accord avec nous ». C'est-à-dire que ce que nous disions, vous et moi, sur le fait que Ghazali reste un philosophe dans sa démarche et dans son approche intellectuelle des questions de la religion, Averroès le dit en disant « ne vous y trompez pas ». Il a attaqué les philosophes, mais il sait mieux que personne la signification profonde des thèses qu'il leur reproche. Lui-même les comprend, au fond, et sait que nous n'avons pas dit, nous ne sommes pas dans les positions hérétiques qu'il nous a prêtées, et il les comprend mieux que quiconque. Donc il y a à la fois les réponses argumentées, logiques, philosophiques qu'il fait à la réfutation de Ghazali, et deuxièmement, cette affirmation qu'ils sont au fond d'accord profondément sur la démarche des philosophes.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui dans cet entretien de teneur philosophique avec le professeur Souleymane Bachir Diagne, nous abordons l'idée de philosopher en contexte islamique aussi bien dans l'histoire que dans cette période contemporaine ô combien cruciale. Et Souleymane Bachir Diagne est professeur de philosophie ou de philosophie des sciences. Et vous êtes, cher Souleymane Bachir Diagne, créateur de l'enseignement de la philosophie dans le monde islamique et notamment à l'université de Dakar. Et pour poursuivre cet échange avec vous, encore peut-être un mot sur cette charnière du temps de la civilisation islamique. On est au XIIe siècle, dans cette partie occidentale du monde. Vous avez évoqué Averroès dans sa réponse à Al-Ghazali, dont il nous dit qu'il a agi en philosophe, et ne vous détrompez pas. Dans ce traité décisif, il disait « S'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. »
Ah oui, c'est la thèse rationaliste par excellence. Et l'argumentation d'Averroès dans ce cadre-là, dont vous avez raison mille fois de rappeler que c'est une fatwa, c'est une décision juridique, est absolument extraordinaire. Parce que, dit-il, la vérité ne peut pas se contredire. Donc, si ma raison me dit que telle chose est vraie, et que la révélation me dit le contraire, c'est que cette contradiction n'est qu'apparente. Il va falloir comprendre à ce moment-là que la révélation est elle-même à interpréter, de telle sorte qu'il y ait cette réconciliation entre la vérité de la révélation et la vérité telle que la raison me la dévoile. Parce que, encore une fois, si on part en effet de cette prémisse qu'il est inimaginable qu'une vérité en contredise une autre, cela veut dire en effet que lorsqu'il y a contradiction, cette contradiction ne peut qu'être apparente et non pas réelle. Et donc, si elle est apparente, il faut pouvoir la réduire et ce sur quoi l'on peut agir, c'est sur le contenu de la révélation et la compréhension que nous en avons. Encore une fois, il ne remet pas en question la révélation. Ce qu'il nous dit d'interroger, d'interpréter, d'expliquer, c'est la compréhension que nous avons de cette révélation. Et donc, voilà l'usage magnifique qu'il fait de ce principe rationaliste qui est que les vérités ne peuvent pas se contredire.
Souleymane Bachir-Diagne, avant d'enjamber comme ça le temps et de passer très vite la fresque historique et la tapisserie des siècles, peut-être encore deux mots sur ces échanges par-delà le temps entre Averroès et Al-Ghazali. Il y a l'argument du temps et l'argument de la perfection divine. Un Dieu parfait ne peut pas, si je puis dire, si j'ai bien compris, être saisi comme ça d'une lubie de vouloir créer, parce que ce qu'il vit, avec mes mots anthropomorphiques très restreints, qu'est-ce qui l'avait poussé à vouloir créer ? Et donc, de tout temps, l'univers lui est co-naturel et consubstantiel. Et le second argument, c'est qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers ou avant le monde, parce que avant est une catégorie du temps et le temps fait partie de l'univers. Donc, d'un point de vue conceptuel, on ne peut même pas se poser la question. Quelle est votre réaction sur ces deux arguments averroïstes, en quelque sorte?
Mais oui, alors, ils sont dans la continuité de ce que nous venons de dire sur le fait que les vérités de la raison doivent s'imposer à nous et que la révélation elle-même, si Dieu a donné la révélation, c'est parce qu'il a donné également à l'humain la faculté de comprendre cette révélation, c'est-à-dire sa raison. Et la notion de Dieu évacue la notion de changement. Il ne saurait y avoir de changement en Dieu. Or, estimer qu'il y a eu un moment où Dieu a décidé de créer un monde qui, avant cette décision, n'était pas, est une idée, est une notion totalement contradictoire. Elle s'écroule d'elle-même parce qu'elle dit qu'il y a eu à un moment donné une volonté qui antérieurement à elle-même n'existait pas et que cette volonté a été suivie d'effets, c'est-à-dire la création d'un monde qui antérieurement à cette création n'existait pas. Et donc, il faut en effet considérer que la création du monde découle en quelque sorte de Dieu lui-même. Et au lieu de penser la création sur le modèle d'un fiat, que quelque chose n'a pas précédé, qui a été précédé par son absence et donc et a marqué un commencement du monde, il faut considérer que la création, c'est l'ensemble des choses qui ne tiennent leur existence que de Dieu, qui ne peuvent se comprendre qu'en relation avec l'essence divine. Et donc, d'une certaine façon, la création, c'est une certaine manifestation de la puissance créatrice de Dieu.
Une théophanie.
Une théophanie de ce point de vue-là. Et vous savez, il peut y avoir des données scripturaires, pas seulement la spéculation rationnelle, et qui vont dans cette direction-là. Quand, évidemment, les traditions, nous le savons, les traditions, les hadiths sont toujours discutables, on peut toujours les remettre en question. Mais cette tradition, ce hadith Qudsi, qui dit « Dieu était et rien n'était avec lui ». Et donc cette idée que Dieu, dans sa définition même, ne laisse rien en dehors de lui. Et on dit que lorsque ce propos a été dit devant un cheikh, ce cheikh a dit « mais il en est ainsi comme il en était alors ». Ça veut dire que rien n'a changé. Le changement, par définition, est étranger à la notion même de Dieu. Et donc, dire cela, ça nous mène très loin parce que nous avons à la fois cette idée que la création est manifestation de la puissance créatrice de Dieu. Voilà sa véritable définition. Et d'autre part, la notion que l'activité créatrice par laquelle Dieu porte le monde, produit le monde, est une activité qui est continue.
Récurrente.
La puissance créatrice de Dieu ne cesse jamais de soutenir le monde tel qu'il est. L'idée qu'il a donné une chiquenaude initiale, un acte créateur, et ensuite qu'il s'est retiré pour contempler le monde, et ceci est étranger à la cosmologie même du Coran. Et c'est cette idée-là qui est derrière la notion d'une éternité du monde qu'il ne faut pas comprendre comme une sorte de compétition où le monde se poserait à côté de Dieu, parce que ce serait également absurde, mais où la création est soutenue en permanence par l'acte créateur, l'activité créatrice de Dieu.
C'est cette notion de tajdid al-khalq, une sorte de création itérative, récurrente, à tout moment par volonté divine.
Voilà, et c'est, ça correspond parfaitement à ce verset coranique qui dit que chaque jour, il a une occupation, c'est comme si Dieu était toujours en train de créer le monde.
Il y a une métaphore que je vous soumets comme ça, qui est celle de l'artiste désargenté. Nous connaissons, et notamment dans les grands boulevards parisiens, et tout particulièrement à un moment donné, le boulevard Saint-Michel, où certains artistes qui dessinent une belle fresque sur le trottoir, et quand il y a quelques badauds qui viennent admirer ce qui est dessiné, ils donnent le bout de craie en disant à l'un ou à l'autre « mets ta patte » en quelque sorte. Et mutatis mutandis, l'homme comme partenaire de Dieu dans cette création, c'est celui qui vient mettre sa marque ou son empreinte dans une grande fresque belle et de création.
Oui, alors j'adore l'analogie que vous avez établie parce que comme quelqu'un qui a grandi en quelque sorte dans le quartier latin, je connaissais beaucoup de ces artistes-là, en effet, dans la rue Saint-André des Arts, dans la rue de l'Harpe, etc. Eh bien, il en est ainsi, en effet, et cette manière de comprendre le statut de l'humain et la place de l'humain dans la création. L'humain, c'est le dernier né de la création. C'est celui dont Dieu dit qu'il est son khalif. Un mot très important. Celui qui tient lieu de. C'est le remplaçant même.
Ce n'est pas le lieutenant, c'est le tenant-lieu.
C'est le tenant-lieu, voilà. Celui qui en tient lieu sur terre. Et donc, c'est une puissance absolument incroyable qui est confiée ainsi à l'humain et avec la charge et la responsabilité pour lui de participer à l'œuvre créatrice en quelque sorte. C'est ainsi qu'on peut comprendre le khilafa, le califat de l'humain. Il a une responsabilité vis-à-vis de la création. Il n'est pas simplement une création ajoutée à la création, mais c'est quelqu'un à qui Dieu a confié le dépôt de la personnalité. Ce dépôt dont il dit que aucun autre être ne peut le porter, l'humain le porte, même si l'humain, évidemment, parfois, peut prendre des chemins de tangente et aller dans la mauvaise direction. Et donc, cette participation, ce parachèvement de l'œuvre de la création qui est la responsabilité de l'humain, dit en effet quelle est la valeur de ce califat qui lui a été confié par Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui est au cœur de la pensée d'un philosophe contemporain comme l'Indien Mohammed Iqbal.
Eh bien, nous y voilà. Je n'ai pas fait exprès en parlant de ces artistes boulevard Saint-Germain, mais ça me fait dire et le dire aux auditeurs que vous avez fait vos études au lycée Louis-le-Grand, que vous avez aussi été à l'école normale supérieure et vous avez soutenu une thèse de doctorat d'État sur l'algèbre de Boulle. Et donc, en évoquant Mohammed Iqbal, on passe du 12e siècle, cette fois-ci, au 20e. Un homme qui était connu aussi comme grand poète, comme un grand juriste aussi, un avocat, et qui a connu, ne serait-ce que sur une période de 3 ans, à la fois Bergson, Massignon. Pouvez-vous nous le présenter? Nous lui avons consacré une ou deux émissions ad hoc, mais là, peut-être pour nos auditeurs, qui est Mohammed Iqbal?
Alors, Mohammed Iqbal, vous l'avez dit, c'est un poète, c'est un philosophe, et c'est aussi un homme d'État, puisque même s'il n'a pas exercé des fonctions politiques, il s'est trouvé à un moment donné en situation de proposer à l'Inde une vision qui s'est traduite par la suite par les indépendances séparées du Pakistan, de l'Inde et du Bangladesh, comme nous le savons. Mais c'est surtout un penseur de la revivification de la pensée islamique. Et c'est dans un cadre comme celui-là qu'il a rencontré physiquement et intellectuellement quelqu'un comme Louis Massignon et quelqu'un comme le philosophe français Henri Bergson. Louis Massignon, il en parle lui-même comme de celui qui a consacré probablement la présentation la plus exhaustive et la plus profonde de la pensée de ce grand mystique musulman qui était Al-Hallaj. Massignon a consacré une œuvre absolument considérable à Al-Hallaj, dont une personnalité qui était également importante dans la réflexion de Mohammed Iqbal. Et c'est par le biais de Massignon aussi qu'il a rencontré Bergson. Massignon raconte que Iqbal a rencontré Bergson en profitant des voyages qu'il effectuait en Grande-Bretagne, précisément comme un des représentants du mouvement musulman en Inde, pour s'arrêter à Paris parce qu'il tenait à rencontrer Henri Bergson. Et d'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler qu'au moment où il y a eu cette rencontre que décrit Massignon, Bergson était très malade. Vers la fin de sa vie, il était souvent toujours très malade. Il était interdit de visite. Et quand Iqbal s'est présenté, quand il a su qui venait le voir, il a tenu à ce que Iqbal vienne à sa rencontre. Et évidemment, leur conversation a tourné autour de la notion du temps. Ils sont tous les deux philosophe du temps, penseur du temps comme temps, et non pas du temps spatialisé comme distance entre un moment donné et un autre moment. Voilà ce qu'ils avaient en partage. Et lui, Massignon, qui commente la rencontre non seulement réelle, physique, entre les deux, mais la rencontre intellectuelle et spirituelle entre les deux a parlé d'affinité les liant. L'idée qu'ils avaient une affinité profonde, et c'est vrai que lorsqu'on lit l'œuvre philosophique majeure de Mohamed Iqbal, sa reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, et qu'on lit certains chapitres de la dernière œuvre produite et publiée par Bergson lui-même de son vivant, Les deux sources de la morale et de la religion, on voit ce que Louis Massignon appelle une affinité spirituelle entre les deux.
Une sorte de badalia.
Voilà. Et c'est important de parler d'affinité comme il l'a fait, et non pas d'influence. Parce que, alors, le réflexe serait de dire que Iqbal est bergsonien et que Bergson, la pensée de Bergson aurait influencé la sienne. C'est ce qui est absurde. Il y a véritablement une rencontre entre leurs pensées. Et d'ailleurs, la chronologie va contre cette idée d'influence. Les textes qui vont être réunis dans ce volume, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, sont d'abord des discours que Iqbal a présenté entre les années 1928-1929 en faisant la tournée d'un certain nombre d'institutions en Inde. Et ensuite, ces textes sont réunis pour la première fois en 1930. Ensuite, il y a des éditions avec un chapitre qui vient s'ajouter aux 6 conférences qui ont été la base de ce livre. Et Bergson, quant à lui, publie Les deux sources de la morale et de la religion en 1932. Donc rien que la chronologie interdit l'idée d'influence de Bergson sur la pensée de Mohamed Iqbal. C'est la raison pour laquelle ce mot d'affinité qui a été utilisé par Louis Massignon pour expliquer la proximité spirituelle qui a réuni ces deux philosophes, ces deux penseurs, est un mot très bien choisi.
Alors, puisque vous avez évoqué deux penseurs du temps, l'un et l'autre abordent le temps philosophique, physique, psychologique, physiologique, et c'est selon la perception et la manière d'aborder le temps, ben, nous n'avons pas, nous autres humains, la même notion du temps et la même relation avec le temps.
Absolument, et c'est ça qui est c'est ça qui est important. La pensée du temps est une pensée extrêmement difficile. Nous avons toujours tendance à spatialiser, à penser le temps
en intervalle,
comme intervalle. Voilà. Et donc, en utilisant les catégories de l'espace que nous plaquons sur le temps, nous disons toujours le temps qui sépare notre discussion de la fin de cette discussion. Et donc, nous pensons en termes de distance. Penser le temps lui-même. Et surtout aussi, le penser non pas comme ce qui vient apporter de la détérioration, mais au contraire, ce qui est déploiement de l'être. La manière dont l'être va se réaliser dans le temps et non pas se détruire. Ça, c'était important parce que il y avait dans l'islam, et c'est le sens de la démarche d'Iqbal sur la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, il y avait dans l'islam cette idée que la perfection était à l'origine et que depuis cette perfection, il n'y a plus que de la détérioration. Donc à l'origine, il y avait évidemment la révélation, les premiers compagnons, la première génération en or, et ensuite tout cela va dégringoler. Et prendre au sérieux le temps. Prendre au sérieux, par exemple, ce hadith qui revient souvent sous la plume de Mohamed Iqbal, un hadith qui dit « Ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu ». Cette manière que Dieu a de s'identifier lui-même au temps, c'est une invitation à prendre au sérieux le temps, non pas comme perte, mais comme réalisation. Et ça, c'est important pour Iqbal, parce qu'il estimait qu'en effet, les musulmans, le monde musulman, devait prendre au sérieux le temps, comprendre sa propre situation dans le temps qui était le sien, et renouer avec son propre principe de mouvement et sa propre créativité, plutôt que de rester pétrifié, en quelque sorte, depuis le XIIIe siècle, comme il l'avait été. Et donc, voilà pourquoi la pensée du temps était non seulement une réflexion philosophique, mais également avait une signification pratique pour aussi bien Bergson que Mohamed Iqbal.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec le philosophe Souleymane Bachir Diagne, nous avons cet entretien sur l'importance de philosopher, en tout cas dans les contextes islamiques d'une manière générale. C'est une expression qui renvoie à ce que d'aucuns appellent le monde musulman, mais comme il se trouve que ce monde est perclus de pluralité, parfois d'antagonisme virulent, parfois on préfère l'expression « les contextes islamiques ». Et Souleymane Bachir Diagne est professeur à l'Université Columbia University, Northwest University à Chicago, à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Et Souleymane Bachir Diagne, vous avez été le créateur de cet enseignement de la philosophie, notamment au Sénégal, la philosophie dans le monde islamique et ailleurs. Et pour cette dernière partie, vous pensez que la sortie de crise, la sortie de l'ornière dans laquelle l'article lait est toujours problématique, mais en tout cas des musulmans se débattent, c'est de laisser place à la raison, à la réflexion, à l'intelligence. Mais d'aucuns disent, oui, mais la raison raisonnante nous a menés à des impasses. Qu'est-ce que vous leur suggériez, surtout ceux qui vous écoutent?
Alors, je crois que de la même manière que nous, comme nous l'avons dit, Averroès estimait que la révélation ne pouvait pas venir parler contre la raison, contre la faculté que Dieu lui-même a créée en l'humain pour lui permettre de saisir la signification de la révélation. De la même manière, la raison ne saurait nous mener à l'impasse. Ce qui nous mène à l'impasse, c'est précisément de manquer d'introduire cette raison qui a été pourtant la force de l'islam comme civilisation, réunissant plusieurs cultures, et il faut toujours insister, comme vous venez de le faire, sur la diversité des mondes islamiques. Mais enfin, il y a cette idée qu'en effet, cette religion avait fortement mis en avant la réflexion, la capacité de création continue, la capacité de maintenir vivante la parole de la révélation. Et la pétrification que la pensée de l'islam, non pas l'islam, mais la pensée de l'islam a connu, et ceci nous ramène encore à Mohamed Iqbal, parce qu'il estimait qu'en effet, la mission qui était celle, qui était la sienne, et qui était celle des musulmans de son temps et du temps à venir. Parce que là, je fais une parenthèse, Iqbal a toujours dit que son propre propos s'adressait à des générations à venir. Il avait le sentiment qu'au fond, ce qu'il disait s'adressait à nous, aujourd'hui, qui nous retrouvons devant la nécessité de repenser la philosophie même de notre religion et de faire en sorte que cette religion renoue avec son propre principe de mouvement. Non pas qu'elle imite une modernité qui lui serait extérieure, mais qu'elle produise sa capacité à toujours être moderne, c'est-à-dire à toujours être une réponse pour les musulmans dans les temps et dans les circonstances que ces musulmans vivent. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, ça n'est pas la raison qui nous mène à des impasses, c'est le défaut de raison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Iqbal est quelqu'un que l'on peut considérer comme un contemporain d'Iqbal. Et bon, on peut en dire évidemment, Al-Afghani avait fortement insisté sur la nécessité pour le monde musulman de renouer avec la pensée philosophique, la pensée questionnante, une pensée qui est à la fois interrogation critique et également ouverture vers des possibles et vers l'avenir. Et voilà au fond où nous en sommes, voilà où en est le monde de l'islam dans le besoin où il se trouve de développer de nouveau en son sein la pensée critique, la pensée créatrice, la pensée orientée vers l'avenir et non pas regardant dans le rétroviseur vers le passé.
Se hisser aux exigences, au niveau des exigences de la modernité politique et intellectuelle implique effectivement cette pensée critique et laisser place à cette raison qui a l'air d'être sclérosée, d'aucuns parlent même d'une sclérose en place. Dans « Reconstruire la pensée religieuse en islam » de Mohamed Iqbal, vous avez évoqué Jamaluddin Afghani avant lui. Quelle est la réception de leurs travaux et, pardonnez-moi la question directement comme ça, ont-elles été, je parle de l'œuvre de l'un et de l'autre, étaient suffisamment efficaces ou pourquoi l'impact n'est pas si prégnant de nos jours? Et pourtant, à entendre et à croire ce que dit, après ses travaux, Constance Armingeon, dans son livre « Vers une nouvelle théologie en islam », il y a tout de même des théologiens et des philosophes et qui agissent à la fois en philosophe et en théologien pour laisser place davantage à la réflexion rationnelle et philosophique.
C'est la grande question. Vous venez de poser la question à $1 million, comme on dit en anglais. Parce que cette... Le devenir monde, le devenir réel de la réflexion philosophique a toujours été un problème. Comment faire en sorte que ce que l'on considère être un certain nombre d'énoncés valides pénètre dans la réalité et oriente le devenir des sociétés musulmanes? Eh bien, c'est une question difficile et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, et ceci me ramène toujours à Mohamed Iqbal, et ceci nous montre encore une fois pourquoi non seulement sa pensée, mais sa démarche est très actuelle. Mohamed Iqbal est un philosophe principalement. Mais quand il était en Angleterre, où il a écrit sa thèse sur la philosophie dans le monde de l'islam, il a également suivi des cours de droit, il est devenu juriste, et c'est en tant que juriste qu'il est rentré en Inde, non pas en tant que professeur de philosophie, mais en tant que juriste. Et on a de lui des ébauches, une réflexion sur une sorte de reconstruction de la pensée juridique de l'islam. Oui. Il avait le sentiment que c'est là que cela se jouait. Que sortir de la pétrification, c'était en quelque sorte retrouver la créativité des musulmans qui avaient donné toutes les différentes écoles juridiques avec leurs différences et leurs convergences, mais toujours dans la certitude que même les différences étaient une bénédiction. Ikhtilaf rahma. Nous le répétons en islam. Et un moment où on
dit...
Dans
la divergence des savants, il y a une miséricorde.
Il y a une miséricorde. Et aujourd'hui, et ensuite, à partir d'un certain moment, on se retrouve avec l'idée que, au fond, ça y est, maintenant, il faut mettre fin à cette créativité juridique et fermer les portes de l'ijtihad. Peut-être que personne n'a prononcé véritablement cette phrase, mais elle correspond, d'une certaine façon, à un moment où la créativité, sur ce plan-là, s'était en quelque sorte tarie. Et donc, la manière dont Iqbal estimait qu'il fallait traduire
la réflexion philosophique sur le temps, sur l'ouverture, sur la créativité, l'inventivité, il fallait la traduire, cette réflexion, en termes qui puissent changer les choses sur le terrain, si je puis dire, et cela passait par la réalisation juridique d'un certain nombre de principes. Sortir de la sclérose, sortir de la pétrification, cela passait par l'éclairage à apporter à un certain nombre de questions, de bonnes questions juridiques qui se posent au monde de l'islam aujourd'hui. Prenons un exemple. On s'interroge aujourd'hui, les sociétés musulmanes s'interrogent par exemple sur la signification de l'usure. Vous avez des gens qui ont peur d'emprunter de l'argent pour acheter une maison à des banques parce qu'ils se demandent si ceci n'est pas de l'usure. Sur quelle définition de l'usure est-ce que leur crainte repose ? Voilà des points précis sur lesquels il faut avoir un éclairage, apporter un éclairage qui permette aux sociétés musulmanes et aux individus musulmans de vivre pleinement dans le monde qui est le leur. On dit, il y a cette tradition qui rapporte du calife Omar, qu'il a dit à un moment donné qu'il aurait aimé avoir le temps d'expliquer aux musulmans la vraie signification de l'usure parce qu'il avait peur que les sociétés musulmanes et les musulmans se sentent un peu empêtrés et enchaînés par le refus de l'usure. C'est une tradition, évidemment, qu'il faut prendre avec des pincettes comme toutes ces traditions, mais qui est intéressante parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir le sentiment qu'à un moment donné, les musulmans vont se sentir enchaînés, empêtrés, empêchés par des traditions qui n'étaient pas suffisamment éclairées. Eh bien, cet éclairage, il faut que les apporter maintenant. Aider les sociétés musulmanes à prendre les décisions qui leur permettent de vivre dans le temps qui est le leur, et souvent d'ailleurs dans des sociétés qui ne sont pas originellement des sociétés en terre d'islam. Voilà par exemple sur des cas concrets ce que signifie traduire ce qui est pure réflexion philosophique dans des décisions, dans des orientations très précises qui vont aider les musulmans à vivre pleinement dans leur temps.
Ah, mon cher Souleymane Bachir Diagne, j'aurais souhaité poursuivre avec vous davantage cet entretien. Il se trouve que nous arrivons au terme de l'émission. Si vous nous faites l'amitié de revenir, nous pourrions encore poursuivre et j'ai des tas de questions à vous poser. Merci infiniment. Merci de nous avoir donné et de votre temps et de votre savoir. Et chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et aujourd'hui, c'était simplement un entretien avec le philosophe Souleymane Bachir Diagne. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boisset et la réalisation par l'ami François Connac.